Bien, bonjour à tout le monde. Alors, je vais commencer par dire effectivement pourquoi je suis là cet après-midi. J'enseigne donc la philosophie de l'éducation dans une filière de sciences de l'éducation à l'Université de Saint-Étienne. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion pendant au moins une dizaine d'années, et toujours encore aujourd'hui, de travailler, de réfléchir sur la laïcité. J'ai fait paraître en 2008 un ouvrage chez Peter Lang qui s'appelle « La laïcité scolaire » qui doit être dans la bibliographie que vous avez eue. Et dans cet ouvrage, il y a une partie substantielle d'un chapitre qui est consacré à l'enseignement des religions. Donc je m'appuie en partie sur cet écrit pour venir vous parler cet après-midi. J'ai reformulé mon titre... d'une part parce que je pense que l'approche que je vais vous présenter est philosophique, mais si vous me demandiez directement à quel titre elle l'est, je serais peut-être un petit peu dérangé pour vous répondre. Et deuxièmement, comme il y a une heure d'intervention, c'est un format très inhabituel par rapport aux pratiques universitaires, je me suis dit qu'il fallait pas bavarder et qu'il fallait aller directement à l'essentiel. Donc j'ai formulé 4 thèses que je vais vous présenter, qui en tant que telles, autrement dit en tant que... La discussion se partage. Voilà. Alors, il faut encore moins bavarder. Donc, voilà. J'ai donc formulé 4 thèses et que je vais vous présenter. Avant quand même les 4 thèses, j'ai éprouvé le besoin d'expliciter le cadre général dans lequel je situe ma réflexion. Bon, c'est un cadre assez classique, je pense. Qui est en gros dessiné par les 2 premiers articles de la loi de 1905. Ce que j'entends par la laïcité, c'est un régime juridique qui garantit en premier lieu la liberté de conscience des personnes. Donc cette liberté de conscience se décline de 4 façons différentes, qui sont indiquées ici. La liberté d'avoir la religion de son choix, la liberté de changer de religion, donc ce qu'on appelle l'apostasie, le droit à l'athéisme, le droit de croire et d'affirmer publiquement que Dieu n'existe pas, et puis, ce qui est sans doute l'option aujourd'hui la plus répandue dans une société comme la nôtre, la liberté de l'indifférence religieuse, c'est-à-dire de ne pas se sentir concerné par ces questions. La deuxième principe fondamental de la laïcité, c'est celui de la neutralité de l'État, qui peut se formuler, me semble-t-il, de façon très simple, en disant que l'État laïque n'a pas de religion officielle. Je pense que cette formule est une des plus claires et des plus synthétiques qui définit l'État laïque. Elle suffit en tout cas à distinguer un pays comme le nôtre de pays voisins comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, dans lesquels il y a précisément des cultes qui sont officiellement reconnus, c'est-à-dire officiellement financés par l'État. La conséquence de cette neutralité de l'État, c'est le devoir de réserve qui s'impose aux agents de l'État. Et cela me permet de formuler, en guise d'introduction, la question suivante. Un éducateur tenu au devoir de réserve vis-à-vis des religions, doit-il donner un enseignement sur les religions ? Si oui, en quel sens, dans quelle limite, de quelle façon, voilà, c'est ce dont je voudrais brièvement vous parler et les points sur lesquels je souhaite donc formuler quatre thèses. Alors la première, j'en viens tout de suite à la première thèse, qui est peut-être la moins contestable, mais ça c'est mon avis, on verra si vous le partagez ou pas. L'école laïque traite les religions comme des objets de connaissance et non pas comme des objets de croyance. L'école laïque traite les religions comme des objets de connaissance et non comme des objets de croyance. Autrement dit, l'école laïque donne des connaissances sur les croyances. Et pour reprendre une formule que j'emprunte à ma collègue Jacqueline Gautrin dans les actes du colloque de 90-91 de Dijon, elle transforme les contenus religieux en connaissances. Le propre de l'école laïque, c'est de transformer les contenus religieux en connaissances. Alors bon, cette thèse est assez, je pense, assez classique, assez facile à comprendre. Elle prend un sens par rapport à deux attitudes. La première, je vais parler au conditionnel, serait l'attitude de ceux qui pourraient souhaiter qu'un enseignement religieux s'avance masqué sous l'enseignement des religions. Alors je parle au conditionnel parce que personnellement je crois pas trop à ça, mais il y a, je sais qu'il y a des laïcs convaincus qui y croient beaucoup, hein, qui croient que l'enseignement des religions serait un masque qui permettrait de réintroduire un enseignement religieux à l'école. Et donc par rapport première attitude, il est tout à fait clair, je ne souhaite pas m'y appesantir, que l'enseignement laïque des religions n'est pas un enseignement religieux. Ça n'est pas ce qu'on appelle le catéchisme. Autrement dit, si des élèves posent aux enseignants de l'école laïque des questions du type « Est-ce que Dieu existe ?» Maître, maîtresse, est-ce que Dieu existe ? La seule réponse laïque possible consiste à dire que est-ce que Dieu existe ? Ben, certains sont croyants, d'autres ne le sont pas. Il n'y a pas d'autre réponse à donner à cette question. Ou encore, madame, monsieur, est-ce que vous êtes croyante ? Est-ce que vous croyez en Dieu ? La réponse laïque, c'est de dire la réponse à cette question n'entre pas en ligne de compte. Que je sois croyant ou pas, ça n'entre pas en ligne de compte dans l'enseignement que je dispense. Ça relève du devoir de réserve. Donc c'est la première... Quand je soutiens cette thèse, l'école laïque traite les religions comme des objets de connaissance. Cette thèse s'oppose donc à cette première dérive possible qui serait de vouloir déguiser un enseignement religieux sous l'enseignement des religions. Elle s'oppose aussi à une deuxième dérive qui, me semble-t-il, là, est un risque plus avéré, qui est celui de ce que Régis Debray appelait la laïcité silencieuse. La laïcité silencieuse, c'est celle des enseignants qui, pour des raisons diverses, qu'on pourrait énumérer, et qui sont sans doute des bonnes raisons souvent, mais malheureusement qu'il ne faut pas accepter, donc ceux qui, pour des raisons diverses, confondent devoir de réserve et silence sur les religions. Il est tout à fait clair que les agents de l'État sont soumis à un devoir de réserve, mais ce devoir de réserve ne signifie pas silence sur les religions. Pourquoi ? Parce que le devoir de réserve s'applique aux croyances, s'applique à l'évaluation des croyances, à la valeur des croyances religieuses, et il ne s'applique pas aux connaissances que l'on peut dispenser sur les croyances et sur les institutions. Bref, j'en conclus que les religions appartiennent à bon droit au programme de l'enseignement de l'école laïque, hein, et elles y appartiennent depuis très longtemps, hein, mais ça je ne vous apprends rien, et ça me conduit à ma deuxième thèse, qui est donc... la réponse à la question, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet enseignement des religions à l'école laïque ? Alors, je l'ai formulé de la façon suivante. Parmi les objets scolaires, autrement dit, parmi les objets d'enseignement scolaire, c'est peut-être plus clair, parmi les objets d'enseignement scolaire, les religions n'ont pas de privilèges particuliers. Dans cette deuxième thèse, le terme important... c'est celui de privilège. Quand j'avais travaillé sur cette question, donc je m'étais documenté sur les articles, les colloques, les ouvrages disponibles, et je m'étais rendu compte que, à l'époque, c'est-à-dire entre 1991 et puis 2003, le rapport de Bray, et puis quelques années plus tard, à l'époque où il y a eu pas mal de productions documentaires sur la question, souvent... apparaissait l'idée que cet enseignement des religions devrait bénéficier d'une espèce de privilège particulier. Hein ? On attendait, en quelque sorte, de l'enseignement des religions qu'il vienne combler un manque, hein, au sein de l'école, qu'il vienne apporter quelque chose qui n'existait pas ou qui n'existerait pas à l'école laïque. Et alors évidemment, ce manque ou ce privilège particulier était formulé de façon assez différente selon les auteurs. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui insistaient par exemple sur la lutte contre les dérives sectaires. Hein, l'enseignement des religions serait une réponse permettant de lutter contre les sectes. D'autres insistaient sur la valeur morale de l'enseignement des religions. On attend de cet enseignement qui contribue à revivifier un enseignement moral qui serait devenu très marginal, voire inexistant dans l'enseignement. D'autres attendaient un but de tolérance de l'enseignement des religions. On attend une meilleure intercompréhension et donc une meilleure tolérance mutuelle entre les communautés, etc. Quatrième privilège possible, j'insisterai un petit peu plus, une espèce de but existentiel. L'enseignement des religions permettrait de répondre à une demande de sens. Combler ce qui serait un vide du sens dans une société comme la nôtre. Et cinquième réponse, et alors je dis tout de suite que c'est celle à laquelle j'adhère pour ma part, un but culture et de formation intellectuelle, l'enseignement des religions a pour but de transmettre des connaissances sur les religions. Je voudrais dire d'une part une première chose qui est un peu générale, sur laquelle je vais passer vite. J'ai toujours été très très circonspect face aux pluralités de justifications des enseignements. Il me semble que quand on donne plusieurs justifications pour au sujet d'un même objet d'enseignement, cette pluralité souvent n'est pas très claire. Je prends un exemple qui est certainement très mauvais, qui pourrait me valoir des ennuis, mais ça fait rien. Je pense par exemple que l'éducation physique et sportive n'a rien à gagner à se justifier en termes de citoyenneté. Vous voyez à quel point mon exemple est mauvais. Je crois que quand on parle de l'EPS, il suffit de justifier par les acquis en termes d'éducation physique, sportive, et que je ne sais pas ce qu'on gagne en plus en disant que par ailleurs ça permet la formation des citoyens. Ça me paraît, ce genre de justification-là m'a toujours paru suspecte. Et je crois qu'il en va de même pour l'enseignement des religions. Je pense que plus on ajoute de justifications, et moins c'est clair, en fait. D'autant plus que la justification qui consiste à dire que, comme pour tout objet d'enseignement scolaire, l'école a fondamentalement un but de formation intellectuelle par l'acquisition de la culture, je crois que c'est une justification largement suffisante. C'est la position que je défendrai, mais c'est une thèse et en tant que telle, elle est tout à fait discutable. D'autres ont d'autres positions là-dessus. Mais la mienne, c'est donc la suivante. Le but de culture ou de formation intellectuelle est largement suffisant, à mon avis. Les religions font partie de ce qu'on peut appeler le patrimoine mondial de l'humanité. Et à ce titre, elles figurent légitimement dans les programmes de l'école laïque, mais elles y figurent sans aucun privilège, elles y figurent au même titre qu'y figurent les régimes politiques, les inventions techniques et scientifiques, les œuvres d'art et de littérature. Voilà. Il n'y a pas de raison, à mon avis, d'attendre un privilège particulier. Alors je m'arrête un tout petit peu, justement, avec un des privilèges, entre autres, que j'ai trouvé formulé sous la plume de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la question, René Nouella, qui a travaillé, je crois qu'il a dirigé l'Institut sur l'enseignement des religions de Dijon. Et il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Enseigner l'histoire des religions ». Donc, dans cet ouvrage, René Nouella écrit « La culture religieuse pourrait apporter une contribution essentielle à une ouverture plus large aux questions du sens, à une éducation à l'étrangeté, à la sortie de soi comme à l'interrogation existentielle ». Et donc, je reprends cette formule pour marquer un désaccord explicite avec cette affirmation. Je pense que elle pose deux types de problèmes, à mon avis. Premier problème, c'est que nous n'avons aucune raison de donner aux religions un privilège en matière de sens. Il y a vraiment pas de raison, dans la mesure où nous sommes dans une école laïque, c'est-à-dire dans une école qui appartient à une société sécularisée. On n'a pas de raison de considérer que les religions auraient un privilège quelconque en matière de sens. Le propre d'une société sécularisée, c'est que les sources du sens sont multiples, si je peux dire les choses comme ça. C'est que des personnes peuvent trouver du sens, alors c'est très vague, je m'en excuse, dans les religions, ça c'est évident, il y en a un grand nombre, mais aussi dans la rationalité scientifique, mais aussi dans les idéologies politiques, mais aussi dans les œuvres d'art et de la littérature, dans des philosophies, dans des morales profanes, etc., etc. Les sources du sens sont multiples. Je ne crois pas que l'école laïque doive reconnaître un privilège particulier aux religions de ce point de vue-là. Deuxièmement, se pose aussi le problème de la liberté de conscience. Quand on dit, quand on pense que l'école laïque pourrait apporter une contribution essentielle à la question du sens, on est presque inévitablement confronté à cette question du respect de la liberté de conscience des élèves. Je ne crois pas que l'école laïque ait quoi que ce soit, n'ait pas de leçon directe à faire sur ce qu'on va appeler le sens. Et il me semble qu'il est beaucoup plus raisonnable de s'en tenir à l'idée suivante, l'école laïque doit transmettre des savoirs qui vont permettre, ou du moins dont on espère qu'ils vont permettre aux élèves, de mieux comprendre le monde dans lequel ils se trouvent. Et ensuite d'élaborer par eux-mêmes des opinions plus ou moins personnelles sur ces questions qui relèvent du sens, de la vie bonne, etc., etc. Voilà donc la deuxième thèse. Parmi les objets d'enseignement scolaire, je ne crois pas que les religions aient un privilège particulier à faire valoir. Troisième thèse, je la formule avec un point d'interrogation, elle concerne la façon dont cet enseignement doit être fait. L'origine de cette troisième thèse est donc un texte de Paul Ricoeur qui m'importe beaucoup en tant que philosophe et une formule que l'on doit donc à Ricoeur enseigner les religions dans toute la profondeur de leur signification. Pour quelqu'un comme moi qui enseigne la philosophie dans un département de sciences d'éducation, Ricoeur est une personne très importante. Pourquoi ? C'est, comme vous le savez, un des philosophes français les plus importants au XXe siècle. C'est aussi quelqu'un qui a écrit des textes importants politiques. C'est aussi quelqu'un qui a une conception personnelle de la laïcité qu'il a exprimé à plusieurs reprises. Ricoeur était, vous le savez peut-être aussi, protestant, mais très attentif à faire une distinction très nette entre les croyances et les connaissances, entre ses propres croyances en tant que protestant et son propre travail philosophique. Donc Ricoeur était enseignant aussi, il est tout à fait au fait de la distinction entre croyances et connaissances. Voilà, donc il a évidemment un avis qui est tout à fait digne d'intérêt sur cette question, et précisément cet avis compte puisqu'il a pris position de façon explicite à plusieurs reprises là aussi sur l'enseignement des religions. Alors je vous ai, j'espère que vous pourrez lire de loin, je ne peux rien faire d'autre qu'espérer que vous pourrez lire de loin, je vous ai mis la totalité de l'extrait d'où est issue cette expression. Donc je me permets de vous le lire. Ça s'est tiré d'un ouvrage d'entretien qui s'appelle « La critique et la conviction ». Vous avez la référence tout en bas de la diapositive qui date de 1995, un ouvrage de synthèse dans lequel Ricoeur s'exprime donc sur les religions. « Je trouve tout à fait incroyable que dans l'enseignement public, sous prétexte de la laïcité d'abstention propre à l'État, on ne présente jamais vraiment dans toute la profondeur de leur signification les grandes figures du judaïsme et du christianisme. » On arrive à ce paradoxe que les enfants connaissent beaucoup mieux le panthéon grec, romain ou égyptien que les prophètes d'Israël ou les paraboles de Jésus. Ils n'ont jamais entendu parler de l'épître aux Romains ni des psaumes. Or, ces textes ont fondé notre culture bien davantage en fait que la mythologie grecque. Il est vrai qu'on est là devant un problème difficile à résoudre, mais le fait qu'il ne soit jamais posé n'est pas normal, comme il n'est pas normal encore une fois que les élèves n'aient pas accès à leur propre passé. On leur parle en histoire des guerres de religion, mais leur a-t-on jamais montré clairement autour de quels enjeux elles se sont déroulées, ce que signifie par exemple la prédestination chez Luther, l'Eucharistie chez les catholiques, et ce qu'implique le débat autour de l'ordination des prêtres. Voilà, c'est donc dans ce contexte général que il y a cette formule qui fait que Ricoeur souhaite que, à l'école publique, les religions soient enseignées dans toute la profondeur de leur signification. Je m'interroge personnellement sur la signification de cette expression. Enseigner des religions dans toute la profondeur de leur signification. Ça veut dire certainement une première chose, c'est que un enseignement des religions ne doit pas s'en tenir à l'histoire sociale et politique des institutions. Et là, Ricoeur pointe peut-être un risque ou une dérive qui est sans doute assez fréquente. Pourquoi ? Parce que l'histoire politique et sociale des religions est le terrain le moins dissensuel. On apprend que les catholiques vont à la messe le dimanche, qui se rassemblent dans des églises, pendant que les juifs vont à la synagogue, etc. Ça pose pas trop de problèmes, cet enseignement. Évidemment, ce qui est plus compliqué, c'est l'enseignement qui porte sur la dimension spirituelle des religions, qui est quand même une dimension essentielle des religions. Et la question donc à laquelle répond Ricoeur ici, c'est la question de savoir si l'école laïque doit dispenser un enseignement sur la spiritualité religieuse, sur la vie spirituelle des croyants. Doit-elle vouloir, autrement dit, que les élèves comprennent les religions de l'intérieur, comprendre une religion de l'intérieur ? Ricoeur ne fait pas le parallèle, mais certains auteurs, je vais en parler dans quelques minutes, font un parallèle très intéressant entre éducation des religions, enseignement des religions, et éducation artistique. Et pensent qu'on on devrait traiter l'enseignement des religions comme l'éducation artistique. Au sens où, par exemple, un prof d'art plastique qui est passionné par une œuvre ou passionné par un artiste, peut légitimement faire passer sa passion aux élèves. Personne n'y trouvera rien à redire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le même type d'attitude par rapport à l'enseignement des religions ? Alors moi, j'ai pas de réponse bien précise à ça, même si j'ai une position qui est quand même assez sceptique. Ma position serait de m'en tenir à une interprétation minimaliste de cette formule. Enseigner les religions dans toute la profondeur de leur signification. L'interprétation minimaliste conduira à dire que ce qu'on peut attendre d'un enseignant, quand il parle des religions à l'école laïque, c'est une sympathie méthodologique. Une sympathie méthodologique qui conduira à dire qu'il faut enseigner le christianisme, l'islam et le judaïsme exactement comme on enseigne les dieux égyptiens, grecs ou romains, ou comme on enseigne Molière, Corneille ou Racine, ou comme on enseigne Monet, Van Gogh ou Picasso à l'école dans différents cours. Autrement dit, tout enseignant est censé avoir un minimum de sympathie pour ce qu'il enseigne, même si l'objet de son enseignement ne fait pas partie de ses préférences. Un prof de français ne sera sans doute pas à la fois 17e-iste, 18e-iste, 19e-iste. Il aura des préférences. Et pourtant, s'il est à telle classe de collège où il doit enseigner la tragédie du 17e siècle, même si les tragédiens ne lui plaisent pas particulièrement, il faudra bien un enseignement sur Corneille ou Racine. Et donc, voilà, il va dispenser cet enseignement avec un minimum de sympathie méthodologique, même si, d'un point de vue personnel, il préférerait travailler sur Zola ou sur Flaubert. Je pense que la situation n'est pas foncièrement différente par rapport à l'enseignement des religions. Je proposerai donc cette critique, cette formule, dont je croyais que ma collègue Jacqueline Gautrin en était l'auteur, mais elle me dit que non, mais je ne la crois pas. Je pense que la formule est très belle, donc elle ne peut être que de Jacqueline. Dialectique, une dialectique de la proximité compréhensive, sans laquelle un enseignement manque de chaleur et manque de vie, et de la distance critique qui fait que on a toujours affaire à un objet d'enseignement, à un objet de connaissance, et non pas à un objet de croyance ou à un objet d'adhésion. Alors, cette lecture minimaliste se distinguerait d'une autre lecture, qui serait une lecture maximaliste, avec laquelle je souhaiterais marquer un désaccord. Je trouve, par exemple, cette lecture maximaliste sous la plume d'un collègue de la faculté de théologie de Strasbourg, qui, excusez-moi pour la prononciation, s'appelle donc François Bosflug, qui a dû prendre sa retraite aujourd'hui. Cet extrait est tiré des actes du colloque de Dijon sur l'enseignement des religions. Et donc, j'ai reformulé moi-même, donc les guillemets ne sont pas mal placés, les guillemets désignent les citations. L'auteur écrit que l'enseignement des religions peut être déconfessionnalisé tout en restant religieux. Il doit être guidé par un sens religieux, autrement dit par le pressentiment de la dignité anthropologique du croire, d'une grandeur a priori de la prière, de l'offrande, du sacrifice, de la vision, lequel permet de s'adresser à l'homme religieux qui sommeille encore informe chez les jeunes. Donc là, on a... Mais il n'y a pas de raison, c'est pas rigolo du tout, François, je m'excuse. Mais... C'est un théologien, et peut-être qu'il parle pour son enseignement de théologie, sa paroisse. Dominicain, ça c'est quand même une qualification positive. Et donc, il n'empêche que c'est un extrait des actes d'un colloque sur l'enseignement des religions à l'école publique. Le même auteur propose, c'est lui et avec d'autres, qui propose le parallèle entre éveil de la sensibilité artistique et éveil de la sensibilité religieuse. Il y a l'idée que l'enseignement pourrait viser comme objectif un éveil de la sensibilité religieuse au même sens que, en éducation artistique, on vise un éveil de la sensibilité artistique ou poétique, par exemple. Alors, il me semble qu'il y a quand même une difficulté dans ce parallèle. Ce parallèle me pose problème, personnellement. Pourquoi ? Parce que, à la différence de la spiritualité scientifique ou de la spiritualité laïque, la spiritualité religieuse est toujours reliée à un au-delà. Religion, religuere, ça veut dire relier. Peut-être que la religion relie les communautés humaines entre elles, mais elle relie d'abord chacun à quelque chose qui est au-dessus, au-delà. La spiritualité religieuse est reliée à un au-delà du monde. Autrement dit, alors que l'école laïque peut à bon droit traiter toute œuvre d'art comme une œuvre intégralement humaine, comme une œuvre qui procède intégralement de l'esprit humain, elle ne peut pas le faire dans le cas d'un texte religieux. Soit la Bible, le Coran, la Torah, etc. Si on est dans l'école laïque, deux positions nous sont interdites. On ne peut ni admettre le caractère inspiré de ces textes. Autrement dit, on ne peut pas trancher quoi que ce soit sur l'origine divine de ces textes. On ne peut pas non plus refuser le caractère inspiré ou divin de ces textes. On ne peut faire ni l'un ni l'autre. Pourquoi ? Parce que précisément, on sortirait du devoir de réserve à ce moment-là. Et donc, il me semble que la seule attitude, enfin, pas la seule, mais l'attitude la plus prudente, c'est de s'en tenir à une position d'extériorité par rapport aux religions, par rapport aux textes fondamentaux qui sont dans les religions. Pour le dire de façon un peu grammaticale, excusez-moi, c'est souvent un mode d'expression qui est assez clair peut-être, l'enseignement laïque sur les religions ne devrait jamais mettre les contenus religieux, comme des sujets de propositions indépendantes, du type « Dieu est ». Il ne peut faire des contenus religieux que des sujets de propositions subordonnées. Les croyants croient que Dieu est. Les catholiques croient que Dieu est une personne en trois. Ça, c'est légitime. Le contenu religieux est le sujet d'une proposition subordonnée qui est une modalisation. Les croyants pensent que, les croyants croient que ça. Mais on ne peut pas, me semble-t-il, tenir un discours constitué de propositions indépendantes. Bon, c'est la raison pour laquelle cette troisième thèse, enseigner les religions dans toute la profondeur de leur signification, c'est moins une thèse qu'un problème. Et je pense que ça désigne surtout l'importance pour nous d'avoir conscience d'une limite. Le fait d'être dans l'enseignement laïque, ça veut dire que nous devons avoir conscience de la limite au-delà de laquelle nous ne respecterions plus, notre devoir de réserve. Je pense avoir 10 minutes. Pour formuler ma quatrième et dernière thèse. Alors c'est celle sur laquelle j'accorderai personnellement le plus d'importance et que je vais donc que je développe en dernier. L'école laïque est un peu plus compliquée que les trois autres, mais à peine plus. L'école laïque devrait enseigner qu'il y a une différence de nature entre discours scientifique et discours religieux. Alors, cette quatrième thèse anticipe un peu sur une intervention qui aura lieu demain, je crois, quand les croyances religieuses s'invitent en classe de sciences, si je ne me trompe pas. Donc, je ne peux pas être là demain, et je m'en excuse, mais donc je vais tenir mon propos tout de suite. Sa vocation, c'est de répondre à l'attitude de ceux qui réclameraient un enseignement équivalent de théorie religieuse pour compenser un enseignement scientifique. On entend parler régulièrement aux États-Unis, aussi un peu en France. Il y a une heure sur la théorie de l'évolution et donc on réclame une heure sur la théorie créationniste. Voilà, tout le monde connaît cet exemple qui est très bateau, je m'en excuse, j'en ai pas de meilleur à donner, mais c'est pour me faire comprendre. Donc il y a une demande d'équivalence. On demande l'enseignement d'une théorie spiritualiste de la création dès lors qu'il a été question d'une théorie matérialiste de l'évolution à l'école. Alors, la position que je voudrais défendre par rapport à cette demande d'équivalence, ça commence par dire qu'il y a deux mauvaises réponses à cette demande, à mon avis. Première mauvaise réponse, c'est celle de ceux qui accepteraient cette demande en argumentant qu'au fond, tous vaut, que puisqu'on peut pas départager les théories, c'est vrai que s'il y a un enseignement d'une théorie scientifique, on pourrait très bien avoir le droit de réclamer l'enseignement d'une théorie religieuse. Donc c'est une première attitude qui est une attitude relativiste, si je peux m'exprimer ainsi. La deuxième mauvaise attitude, à mon avis, par rapport à cette demande, ça consisterait à la refuser en argumentant que les connaissances scientifiques sont vraies, alors que les croyances religieuses, elles, ne le sont pas. Et donc, cette deuxième attitude serait plutôt une attitude qu'on pourrait dire dogmatique, un peu positiviste au sens d'Auguste Comte, au sens où on adhérait à une sorte de conception de l'histoire où la science dépasserait la religion et la métaphysique pour s'imposer comme seul type de connaissance valide. Je crois que ces deux réponses, la réponse relativiste et la réponse dogmatique positiviste, ont un présupposé qui leur est commun, quelque chose de commun à chacune d'elles, qui est que discours scientifique et discours religieux pourraient être comparables. Ce qui justifie la demande d'équivalence, c'est qu'on pourrait comparer le poids du discours scientifique et le poids du discours religieux et réclamer un discours religieux dès lors qu'un discours scientifique aurait été tenu. Alors je pense que ce présupposé commun doit être refusé. À mon avis, la position de l'école laïque, c'est qu'elle doit refuser ce présupposé commun en disant que le discours scientifique et le discours religieux ne sont pas sur le même plan. Et à mon avis, on devrait même enseigner aux élèves cette différence de nature entre discours religieux et discours scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire « pas sur le même plan » ? Je répète que ça ne veut pas dire que un discours serait vrai pendant que l'autre serait faux. Ça ne veut pas dire ça. Ma thèse, c'est que s'ils ne sont pas sur le même plan, c'est que la distinction même entre le vrai et le faux n'est pas à accepter, à prendre dans le même sens pour le discours scientifique et pour le discours religieux. Et même, là je suis pas tout à fait sûr de moi, mais je suggère qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que la distinction entre le vrai et le faux est une distinction qui caractérise le discours scientifique et qui ne caractérise pas le discours religieux. Ou en tout cas qui ne le caractérise pas dans le même sens des termes vrai et faux. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de dogmatiquement dire « ta demande de religion ne m'intéresse pas parce que les religions, c'est de l'illusion ou je ne sais pas quoi hein, ». Et il n'y a que la science qui est vraie. Il s'agit d'essayer de faire comprendre d'un point de vue rationnel que les formes de validité de ces discours ne sont pas les mêmes. Dans un cas, dans le cas du discours scientifique, on a des formes de validité qui sont testables empiriquement. L'eau bout à 100 degrés, dans certaines conditions expérimentales, cette affirmation est vraie ou fausse. On peut montrer qu'elle est vraie ou fausse. 2 plus 2 égale 4, dans certaines conditions axiomatiques, qu'il faudrait pas que vous me demandiez de repréciser, parce que je ne saurais pas le faire, mais enfin, dans certaines conditions axiomatiques, cette affirmation peut être déclarée rationnellement vraie ou fausse. La distinction du vrai et du faux a un sens dans ce champ de la connaissance scientifique. Les connaissances religieuses, quant à elles, relèvent d'un autre régime de validité que celui du vrai et du faux. C'est le régime de la croyance. Credo in unum Deum. Je crois en un seul Dieu. C'est ce qu'on dit à la messe. Ça n'est pas « il y a un seul Dieu », c'est « je crois en un seul Dieu ». Alors bien sûr, je crois qu'il y a un seul Dieu, ça c'est vrai. Mais c'est quand même un autre régime de validité, c'est un régime de croyance. Donc je pense que les discours ne peuvent pas être comparés parce qu'ils ne se situent pas sur ce même plan-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a pas de contradiction à être à la fois savant et croyant. C'est précisément parce que les discours ne sont pas sur le même plan de validité qu'on peut parfaitement avoir un esprit scientifique, voire même être un grand savant, et être membre d'une église. Vous avez des figures célèbres, je pense à Yves Coppens par exemple, mais il n'est pas le seul, qui est à la fois un scientifique de très haut niveau et en même temps qui affirme qu'il est catholique, et ça ne lui pose pas de problème, il n'y a pas de contradiction pour lui. Et il n'y a pas de contradiction précisément parce que les discours ne se situent pas au même niveau de validité. Donc il me semble que l'école laïque devrait tenir une position ferme sur cette question, refus de comparer les discours, du coup refus de répondre à la demande d'équivalence, non pas parce que le discours religieux serait illusoire, mais parce que il n'est pas sur le même plan. Voilà. J'ai 2 minutes pour conclure sur un point qui est un tout petit peu moins important, et donc c'est pour ça que je l'avais réservé pour la fin, au cas où j'ai pas le temps de parler. Mais là, j'ai un peu le temps. En guise de conclusion, un problème de vocabulaire. Vous avez peut-être déjà parlé de ça. Le vocabulaire est multiple. Enseigner les religions, enseigner les faits religieux, enseigner la culture religieuse, enseigner le fait religieux. Je suis pas sûr pour ma part que ces questions de vocabulaire soient absolument décisives. Je pense que ça n'est pas le cas. Mais quand même, si je devais insister sur un point, c'est l'importance du pluriel. Enseigner les faits religieux. Personnellement, j'ai toujours été très méfiant par rapport au singulier, depuis le début, enseigner le fait religieux, pour une raison qui est une raison sociologique. Vous savez, les sociologues nous ont habitués au risque d'essentialisation qui travaille le discours et nos façons de parler. L'essentialisation, ça veut dire que souvent le langage transforme en réalité immuable, intangible, non historique, ce qui au contraire est fondamentalement livré à l'évolution, à la pluralité, etc. Et je pense que dans cette expression « enseigner le fait religieux », il y a un risque de ce type-là. Moi, je l'entends, ce risque. Alors, je suis peut-être complètement allumé, c'est pas impossible, mais j'entends cette idée-là, ce risque d'essentialisation. Le fait religieux, comme si les religions s'étaient destinées à exister toujours partout, en tout temps et en tout lieu, vous voyez. Alors, et comme si, autrement dit, c'était pas des réalités historiques. Et je pense que le pluriel est beaucoup plus prudent. Enseigner les faits religieux, ça veut dire qu'on a conscience du fait que les religions sont multiples, qu'elles sont très différentes, qu'elles sont évolutives historiquement. Alors peut-être qu'il y a toujours eu des religions, et peut-être qu'on n'est pas prêt de voir les religions disparaître, ça. C'est pas du tout impossible, Autrement dit, que les religions sont une réalité anthropologique tout à fait attestable, mais ça ne nous dit rien d'une société possible sans religion. En tout cas, enseigner les faits religieux, ça me paraît, là encore, un usage du langage qui me semble
conforme à ce qu'on peut attendre de l'école laïque.